RRB Rétro 2024.
Et après la rétro-politique d'Elisabeth Noir, c'était dans notre journal de la mi-journée. Nicolas Legrand, vous nous proposez ce soir de nous replonger dans l'actualité de 2024 d'un point de vue sécuritaire. 2024, l'année de l'asphyxie.
Oui, une nouvelle année de cendres. Les Calédoniens ont eu le souffle coupé face à autant de violences. Sur fond de dégel du corps électoral ou du pacte nickel, la CCAT augmente constamment la pression au cours des premiers mois. Phase 1, puis 2, puis 2,5, et la menace d'une troisième qui restait bien obscure. Les manifestations se multiplient jusqu'au 13 avril, un mois avant la date fatidique. Ce jour-là, beaucoup craignent des débordements. Les partisans de la France avaient appelé à manifester en bleu, blanc, rouge, baie de la Moselle et avenue de la Victoire pour marquer l'attachement à la République et exiger l'ouverture du corps électoral. Les indépendantistes emboîtent le pas et appellent aussi leur base à se rassembler à quelques centaines de mètres de là, place des Cocotiers. Chacun derrière son drapeau adresse un message à l'autre camp et surtout à Paris avant l'examen du texte au Parlement. Les plus pessimistes prédisent des heurts, mais la police veille au grain et tout se déroule dans le calme jusque-là. La Nouvelle-Calédonie continue donc de retenir son souffle pendant un mois avant la stupéfaction du 13 mai. Alors que le texte sur le dégel du corps électoral est examiné à l'Assemblée nationale, Saint-Louis s'embrase, premier signe d'une crise qui allait durer plus de 4 mois à l'échelle du territoire. La RP1 est de nouveau bloquée, comme ce fut le cas depuis le début de l'année à plusieurs reprises. Le haut-commissaire Louis Lefranc se rend sur place et fait part de la très grande hostilité des émeutiers.
Ils sont nombreux, ils sont très hostiles, ils lancent des cailloux, ils se servent de fusils de chasse. Cette forme de violence extrême, avec des tirs à balles sur les gendarmes, ça appellera une réponse de la part de l'État.
Ce lundi 13 mai, point d'orgue des 10 jours pour Kanaky, lancé par la CCAT, l'air devient rapidement irrespirable. Les leaders du mouvement soufflent sur les braises et mettent le feu aux poudres. Par milliers, les émeutiers déferlent sur l'agglomération, saccagent, pillent et brûlent des entreprises par centaines. Impossible d'être exhaustif. Certains quartiers sont totalement aux mains des insurgés. Les habitants y vivent la pression des émeutiers qui menacent parfois de brûler leur maison. Certains seront même exfiltrés avant d'assister impuissants à la destruction de leur foyer. Les premiers témoignages nous parviennent par téléphone.
J'ai vécu 84. Aujourd'hui, je vis pire que ce qui s'est passé en 84. Moi, je suis dégoûtée. Je ne sais pas comment je pourrais regarder ces gens en face. Et leur dire ce que vous avez fait, c'est très très grave. Vous avez détruit la Calédonie, mais vous avez détruit nos cœurs.
Le 14 au matin, les volutes de fumée témoignent de la violence de la nuit. Le réveil est très difficile face aux images de chaos. Sonia Lagarde, maire de Nouméa.
Le FNLKS a accouché d'un monstre. Les dégâts sont considérables. On va se retrouver dans une ville qu'il va falloir totalement reconstruire. Nouméa est une ville martyre. Moi, je suis le maire d'une ville martyre.
Sur le terrain, la situation est extrêmement tendue. Pendant plusieurs jours, les Calédoniens découvrent le bruit assourdissant des grenades des forces de l'ordre qui tentent de reconquérir le terrain. La peur gagne les foyers, alimentée par cette violence inouïe, mais aussi, il faut le dire, par la circulation de rumeurs. Plusieurs quartiers sont principalement ciblés par les émeutiers, sans les citer tous. Boulari, Conception, Coutiot, Apogoty, la Vallée du Tir, Magenta, Tuban, Rivière-Salée et bien sûr, des zones commerciales et industrielles comme Kenwin, Normandie et Ducos, où l'entrepreneur Stéphane Yoto, élu à la CCI, en appelle à l'État.
On a été lâchés, on a été abandonnés et on a besoin d'aide. Je pense qu'on a perdu l'équivalent d'une usine de nickel sur Ducos. On a perdu entre 1000 et 1500 emplois.
Les poumons économiques sont touchés, les entreprises suffoquent et avant l'asphyxie, l'État apportera quelques bouffées d'oxygène sous forme d'aides diverses. Alors pour limiter la casse, dès les premières nuits de violence, des riverains et des entrepreneurs sidérés se barricadent et espèrent une désescalade rapide dans ce conflit. Les quartiers sont bouclés par les riverains, les checkpoints se multiplient jour et nuit, couvre-feu ou non, la surveillance est permanente.
Tout le monde a très peur qu'entre deux insultes racistes, il y a « on va venir brûler vos maisons, on va foutre l'économie à terre ».
Ok, suivez-moi, quatre personnes à l'intérieur, donc à gouler.
Du jour au lendemain, on se retrouve comme ça, dans une situation de guerre civile, les gens ils montent sur vous pour vous tuer, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Où elle est passée la Calédonie quoi?
Des violences qui auront fait en tout 14 morts par balle en 2024, 11 émeutiers, un automobiliste qui a déclenché une fusillade sur un barrage de la CCAT à Calagomène. Certains seront neutralisés par des tirs de riposte des forces de l'ordre d'après les enquêtes. 5 tomberont sous des balles civiles, des tireurs présumés qui sont mis en examen et incarcérés pour la plupart en métropole et un état de légitime défense reconnu. Parmi les tués, 2 gendarmes. Le 16 mai, au matin, la Nouvelle-Calédonie découvre le visage du gendarme Molinari, 22 ans, de l'escadron mobile de Melun, abattu par un tireur embusqué à la coulée. Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, exprime son indignation à l'Assemblée nationale.
Des vieux, comme on dit chez vous en Nouvelle-Calédonie, sont venus parler aux gendarmes. Il a alors retiré son casque et alors il s'est fait tirer dessus en plein front.
La justice recherche toujours, à ce jour, l'auteur du coup de feu mortel. Face à cette situation et au risque d'embrasement généralisé, une mesure très exceptionnelle est prise. Le 16 mai, Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence pour 12 jours, le haut-commissaire Louis Lefranc.
L'état d'urgence va donner des moyens juridiques pour effectuer des assignations à résidence, des perquisitions administratives. La cellule de coordination d'action sur le terrain, c'est une organisation de voyous avec la volonté de tuer les forces de l'ordre. Ils en prennent la responsabilité, ils devront assumer devant la justice de la République.
12 cadres de la CCAT, dont Christian Théin, sont ainsi assignés à résidence. Assignation du leader qui sera levée le temps d'un entretien avec Emmanuel Macron au Haut-Commissariat le 23 mai. Le chef de l'État lui pose un ultimatum pour lever les barrages de la CCAT qui ne sera pas suivi d'effet. Les blocages et les violences continuent. L'État achemine alors du matériel et des forces de l'ordre. Jusqu'à 2/3 des gendarmes mobiles français seront sur le territoire en même temps. Un pont aérien a immédiatement été mis en place pour évacuer les touristes bloqués à Nouméa et surtout, je le disais, acheminer des troupes d'unités spécialisées dans les violences urbaines et du matériel, comme les fameux Centaures qui arriveront par Antonov. Une prouesse pour l'armée française saluée jusqu'à l'état-major à Paris. Écoutez son porte-parole.
24 rotations en une douzaine de jours. On était sur un rythme de 2 départs quotidiens depuis la métropole vers la Nouvelle-Calédonie. En kilomètres, on a parcouru environ 960 000 kilomètres. C'est presque 24 tours du monde.
Les forces armées sont déployées sur le terrain, non pas pour le maintien de l'ordre, bien entendu, mais pour protéger les sites sensibles. Ports, aéroports, dépôts de carburant, réserves en eau, bâtiments publics. Cette projection massive de matériel, de gendarmes et de CRS permet de rétablir petit à petit l'ordre public. Trop lentement, certainement, pour la population, mais la tâche est colossale, notamment pour retirer les barrages des émeutiers qui sont immédiatement reconstitués, à l'image de cette vaste opération du 20 mai pour reconquérir l'axe vers l'aéroport international. Le général Mathéos, commandant la gendarmerie.
Une opération techniquement compliquée parce que les barrages étaient considérablement renforcés avec des murs de véhicules et certains barrages étaient piégés avec des bonbonnes de gaz. C'est une opération qui montre bien notre détermination à ne pas laisser ces émeutiers qui veulent faire peur à la population, qui veulent affamer la population, qui veulent semer le chaos, ne pas les laisser gagner le terrain. Les émeutiers n'auront pas le dernier mot.
Des milliers de carcasses de voitures, des tonnes d'acier et des brousses en tout genre sont retirées jour après jour, sans relâche par les forces de l'ordre qui priorisent les secteurs essentiels, stratégiques même, comme l'accès au Medipôle. Certaines infrastructures du CHT sont dégradées et les soignants sont agressés, menacés et ne peuvent pas se relayer. Ils dorment sur place, opèrent 24 heures sur 24. Le docteur de Gréland, ancien médecin militaire, lance un appel au calme.
On s'est préparé au pire. Les blessés et les morts commencent à s'accumuler. Pour avoir travaillé dans un certain nombre de zones de guerre, dans mon pays, là, c'est vraiment très compliqué de vivre ça. Donc, il faut absolument que la situation se sécurise et s'apaise.
De nombreux cabinets médicaux et pharmacies ont été incendiés, des lieux de stockage de médicaments également. L'hôpital reste plusieurs jours inaccessible par la route. Alors, les autorités ont mis en place un poste médical avancé à Nouméa et ouvrent des structures de médecine plus généralistes de proximité. Écoutez le Christian Decanler, médecin-chef de la DSCGR.
C'est en fait une structure de soins de médecine de catastrophe pour la prise en charge de nombreuses victimes. Mais la deuxième mission, qui est celle qui nous occupe principalement, c'est de la médecine générale.
Le docteur de Gréland dénonce régulièrement une prise en otage de l'hôpital et alerte très vite sur les risques pour les patients souffrant de maladies chroniques notamment. Malia, par exemple, a perdu son mari qui n'a pas pu réaliser toutes ses dialyses à partir du 13 mai, ni même se rendre à l'hôpital au moment critique. Un cri du cœur poignant.
À cause de tout ça, mon mari est mort. Depuis le 13, mon mari n'a pas eu tous ses soins nécessaires pour survivre. On compte les morts qui sont morts dans les barrages, mais alors les morts qui n'ont pas pu recevoir leurs soins. C'est comment ils ont tué mon mari.
Combien de personnes sont mortes faute d'accès aux soins? À cette heure, aucune donnée n'a été publiée par les autorités sanitaires. Parmi les victimes collatérales, on pense aussi aux personnes qui ont trouvé la mort en voiture ou en moto en raison des barrages, des décès classés dans les accidents de la route.
Et pendant cette période de graves troubles à l'ordre public, au-delà des drames, de la peur, c'est tout le quotidien des Calédoniens qui est bouleversé.
Oui, en mai, de nombreuses surfaces commerciales ont été réduites en cendres. Les pénuries se font rapidement sentir, les rayons des magasins encore debout sont vides et ravitaillés au compte-gouttes, parfois sous escorte des forces de l'ordre. Des bateaux sont aussi affrétés pour envoyer des vivres dans les zones coupées sur l'ensemble du territoire. Et pour certains, se déplacer, acheter le strict minimum devient même une véritable mission.
Il faut que je fasse des courses, j'ai plus de réserves, j'ai fini mes réserves.
L'absolue nécessité, c'est-à-dire des éléments de base, du sucre, un petit peu de pâte, un peu de riz et puis un peu de jambon.
De quoi faire pour encore quelques jours. On va pas non plus vider le magasin, en laisser pour tout le monde.
Ça commence à être un petit peu critique, on va dire. Heureusement, il y a toujours de l'entraide et puis on fait attention aussi, forcément.
Autre conséquence, les transports publics restent à l'arrêt de longs mois, comme les cars rails ou encore le réseau Taneo. Naya Wateou, la présidente du SMTU, s'en explique.
Cette réalité qui s'impose, on ne pourra plus aller partout. Le réseau tel qu'on le connaissait avant le 13 mai a complètement disparu.
Taneo reprendra avec un nombre de lignes considérablement réduit et un ticket à 500 francs. Globalement, les transports se sont réorganisés avec notamment l'émergence des taximiles. Et surtout, la mise en place de navettes maritimes. Le Mont d'Or Sud et Yatté seront restés coupés du reste du territoire entre le mois de mai et octobre. La RP1 reste certainement le point le plus chaud de ce conflit, avec des centaines de tirs sur les gendarmes, des dizaines et des dizaines de carjackings et d'agressions. Alors pour faire face à cette difficulté, avec le soutien de l'État, la mairie du Mont d'Or et la province sud ont mis en place des systèmes de barges et de navettes maritimes. Jusqu'à 3800 personnes les ont empruntées chaque jour. Une situation extrêmement difficile à vivre.
Ça devient très très compliqué à gérer psychologiquement. Je sais même plus vers qui me tourner, qui demander de l'aide. On s'entraide comme on peut, mais ça devient plus possible à gérer. C'est fatigant, c'est usant.
Les Mondoriens du Sud se lèvent très tôt pour faire des heures de queue et attendre le bateau. Regarde la météo pour savoir si les navettes navigueront. Une galère qui va durer jusqu'à la fin de l'année. La route rouvrira effectivement de manière partielle en octobre. Mais malgré l'important dispositif de gendarmerie, quelques incidents sont survenus, dont certains graves, comme des carjackings ou encore des caillassages le long de la RP1 qui feront des blessés. Le conflit à Saint-Louis, qui a été marqué par son extrême violence, bien sûr, mais également par l'incendie de la mission et de son église. Les sœurs ont vécu des nuits de cauchemar avant d'être exfiltrées par le GIGN. En tout, 6 églises du territoire ont fait l'objet d'attaques. Rapidement, la communauté catholique s'organise et surveille les édifices religieux à l'image de Sonia.
On a mis en place une surveillance rapprochée avec des hommes principalement pour la nuit et en journée des mamans. C'est important, pas que pour le bâtiment lui-même. Même s'il y a tout ce chaos-là, c'est aussi se porter ce message d'espérance. Mais il est de notre devoir aussi de protéger notre foi. Si tout le monde perd la foi, on a tout perdu.
Les émeutiers qui s'en prennent donc à des édifices sacrés sur fond de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux sur la présence de messes noires ou autres absurdités. Les francs-maçons en feront également les frais avec l'incendie des 3 temples de Caméré. Quant au temple bouddhiste, il a lui aussi été brûlé à plusieurs reprises à Magenta. Et enfin, concernant ce quotidien chamboulé, on retiendra évidemment également la destruction d'établissements scolaires, l'arrêt des cours pour beaucoup d'élèves et la mise en place de la continuité pédagogique pour aboutir à des examens en contrôle continu à la fin de l'année.
C'est donc une année hors norme avec 4 mois et demi de violences au moins qui ont touché dans un premier temps l'agglomération avant, Nicolas, de gangréner sur tout le territoire.
Oui, les autorités avaient parlé de techniques de harcèlement pour venir à bout de ce conflit. Le haut-commissaire a invité à de nombreuses reprises les auteurs de crimes et délits à stopper leurs exactions. Écoutez Louis Lefranc.
On en viendra à bout. Moi, je suis déterminé. On ira les chercher un par un, un par un. S'ils se risquent, comme ils l'ont fait, là, cette nuit, 88 tirs sur les gendarmes, à continuer sur cette trajectoire, ils prennent des risques très importants pour eux-mêmes.
La reddition plutôt que l'interpellation, ce sera la méthode utilisée à Saint-Louis, par exemple, afin de permettre la réouverture de la route. Les mises en cause étaient invitées à déposer les armes et à se rendre en gendarmerie pour éviter une intervention musclée dans la tribu. De semaine en semaine, la situation s'apaise entre mai et août. Mais malgré l'accalmie, tous les regards sont braqués sur le long week-end du 24 septembre, une date de tous les dangers où certains appelaient à décréter unilatéralement l'indépendance. Finalement, hormis quelques petits débordements, la situation a été tenue par des forces de l'ordre nombreuses et qui sont intervenues jusqu'à épuisement des émeutiers. Le général Matteo s'exprimera la satisfaction des gendarmes d'avoir ramené la paix sur le territoire.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette haine que ça a marqué nos gendarmes. Beaucoup ont connu des théâtres d'opérations difficiles, mais aucun n'a connu un théâtre d'opérations aussi difficile dans la durée. Immense fierté de notre part d'avoir pu préserver la paix, d'avoir contribué de manière déterminante à préserver ce territoire d'une crise qui était potentiellement beaucoup plus grave. Tout le monde pensait à la guerre civile.
2024, une année hors norme, on le disait, des milliers d'emplois détruits, des Calédoniens contraints de faire leurs valises et un traitement judiciaire également très important. La police, la gendarmerie et le parquet ont été considérablement renforcés pour traiter le volume d'affaires. 2500 gardes à vue, 500 déferments, 250 mandats de dépôt et environ 600 convocations en justice. Un marathon judiciaire marqué aussi par l'enquête sur les commanditaires présumés. Le 19 juin, le local de l'Avenir à Magenta où la CCAT avait été élue domicile est perquisitionné au petit matin. Après une intervention du RAID, 11 personnes sont interpellées ou se rendent, dont le leader de la CCAT, Christian Théin. Après leur garde à vue, certains seront incarcérés en métropole, d'autres au camp Est ou encore placés sous contrôle judiciaire. Depuis, les avocats de la CCAT multiplient les recours, les demandes de dépaysement du dossier et de rapatriement des prisonniers. Une procédure inédite avec potentiellement des charges très lourdes, des milliers de parties civiles, des ingérences étrangères. Bref, un travail de fourmi pour la justice. Yves Dupas, le procureur de la République.
Il faut pour ce travail d'enquête entre 18 mois et 2 ans. C'est vraiment une situation hors norme. Ce ne sont pas des émeutes que le territoire a vécues. C'est une déflagration insurrectionnelle sur fond de radicalisation identitaire avec des faits de crimes et délits particulièrement graves. Et donc il faut laisser du temps à la justice. La manifestation de la vérité demande aussi du temps.
2025 sera donc marqué par un nouveau chapitre qui fait suite à cette violence insurrectionnelle. On vivra les conséquences économiques, bien sûr, sanitaires, on l'a vu, psychologiques, sociales certainement, et surtout une année avec probablement les premières réponses de la justice. Les Calédoniens doivent connaître la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Une occasion de pouvoir comprendre, de nommer ce qui s'est passé et d'obtenir réparation. Si 2024 a été l'année de l'asphyxie, espérons donc que les discussions de 2025 puissent apporter un nouveau souffle et un nouvel élan à la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas d'autre choix que de renaître de ses cendres.
Merci Nicolas Legrand. Une rétro de l'année 2024 à retrouver d'ici quelques minutes en podcast sur notre site internet rrb.nc. Je vous précise que nous poursuivrons nos rétros de l'année écoulée. La semaine prochaine, on parlera notamment sport. Ce sera avec Mickaël Juneski et Léo Fichou.